Ouvrons nos Bibles, l'épître de Paul aux Colossiens, à page 227. Avant de faire cette lecture, nous prions un moment ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui sera lue. Nous te prions ensemble de ouvrir et œuvrer dans nos intelligences, dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre être en entier, pour que ta parole soit bien reçue par chacun de nous. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons entraînés loin de ta vérité, ni écartés loin de toi, mais que l'écoute de ta parole maintenant nous fasse grandir dans la foi, dans l'obéissance, dans l'amour, que nous nous attachions encore plus à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Colossiens 1, 1 à 8. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Amen. Jean-Sébastien Bach est considéré par plusieurs comme le plus grand musicien et compositeur de tous les temps. Virtuose du violon, de l'alto, du clavecin et de l'orgue, il avait des talents uniques, extraordinaires. Il aimait mettre à la fin de ses œuvres musicales, l'expression « À Dieu seul la gloire ». Un serviteur de Dieu a dit « Quand j'ouvre la porte de la chapelle de l'Épître aux Colossiens, c'est comme si Jean-Sébastien Bach est à l'orgue. L'Épître aux Colossiens évoque avec une beauté et une grandeur exceptionnelle la richesse incomparable de la vie chrétienne que nous avons en Jésus-Christ. » Nous commençons ce matin une série de prédications sur l'Épître de Paul aux Colossiens. La ville de Colosse était située dans cette région du monde que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Quand nous écrivons des lettres, nous, habituellement, nous signons notre nom à la fin de la lettre, mais à l'époque de Paul, c'était différent. On signait dès le début, comme Paul fait ici. Il me semble que c'est plus logique aussi. Lorsque Paul écrit cette épître aux Colossiens, il est en prison à cause de sa foi. Inspiré de Dieu, il écrit cette lettre pour rappeler aux chrétiens de cette région la toute suffisance de Jésus-Christ comme le grand Créateur et Sauveur. Nous voyons dès le départ qu'il est en mode reconnaissance. Il dit au verset 3, en mode louange, il dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Paul ne loue pas les Colossiens, Paul ne félicite pas les Colossiens parce qu'ils se conduisent bien, mais il loue Dieu, il célèbre l'action de Dieu dans la vie des Colossiens. C'est Dieu qui leur a accordé la foi. C'est Dieu qui est responsable du cadeau du salut du début jusqu'à la fin. Donc, Paul est dans une attitude de reconnaissance et de louange à l'égard de Dieu. Le trésor par excellence des Colossiens, c'est l'Évangile. Et ce matin, nous allons regarder plusieurs aspects de l'Évangile, tels que les versets 4 à 8 les placent devant nous. Premièrement, l'Évangile est la parole de vérité. Nous lisons au verset 5, la parole de vérité, celle de l'Évangile. Cette expression, la parole de vérité, celle de l'Évangile, a donné naissance à l'expression courante qu'on entend parfois, plus autrefois qu'aujourd'hui, mais on disait parfois, « Ce que je te dis là est aussi vrai qu'une parole d'Évangile », pour montrer la sincérité que la personne a. Par désir d'être crue, elle disait, « Ce que je te dis là est aussi vrai que parole d'Évangile ». Autrement dit, l'Évangile est ce qu'il y a de plus fiable, de plus digne de confiance, de plus vrai, de plus solide, et on peut s'y fier. L'Évangile, dit Paul, est la parole de la vérité. Quel trésor que de connaître cette parole de vérité, nous qui vivons dans un monde déformé par le mensonge à tout point de vue. On pourrait même dire quel bonheur aussi d'être en quelque sorte possédé, dans un sens, dans le bon sens du mot, par cette parole de vérité qui nous habite et qui nous transforme. Premièrement, l'Évangile est la parole de vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. L'expression « en Christ » qu'on voit ici au verset 2 et au verset 4 est une des expressions favorites de l'apôtre Paul. Dans ses épîtres, il l'utilise 164 fois pour montrer, pour parler, pour évoquer la position du chrétien. Le chrétien est uni à Jésus-Christ, collé, attaché, soudé, ancré, greffé à Jésus-Christ d'une façon profonde. Il vit dans une communion profonde avec son Sauveur. Nous avons part à tout ce que Jésus a fait grâce à cette union avec lui. Le mot « évangile », vous le savez maintenant, veut dire « bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle est justement que ce Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a donné sa vie par amour pour nous délivrer une fois pour toutes de toutes nos fautes. Et il est ressuscité pour une vie nouvelle, pour régner sur nous, pour nous donner cette vie éternelle. Pour être pardonné de nos péchés, nous ne devons aller à nulle part ailleurs que dans le Fils de Dieu, le Sauveur. Je défie quiconque de me montrer quelque chose de plus merveilleux que le pardon que le Fils de Dieu nous a acquis à la croix. Si nous considérons comme il faut nos péchés, le salut nous apparaît comme le plus grand miracle qui soit. Les archéologues ont découvert que plusieurs des plaques servant à recouvrir les tombes dans les catacombes à Rome avaient l'inscription « En Christ et en paix ». C'est là que se trouve notre paix, en Jésus-Christ. Beaucoup de gens cherchent la paix. Beaucoup de gens souffrent de ne pas avoir la paix, soupirent après la paix, mais tant qu'ils ne vont pas se tourner vers le Christ Jésus pour recevoir le pardon des péchés, ils ne trouveront jamais la paix. La clé, elle est là, en Jésus-Christ, le Sauveur. Premièrement, l'Évangile est la parole de la vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile est reçu par la foi dans le Fils de Dieu. Verset 4, « Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus. » Votre foi. Des gens parfois disent que la foi, c'est un saut dans le vide. Ce n'est pas tout à fait le cas. La foi se base sur des faits, les faits qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Quand nous roulons en automobile sur une route que nous ne connaissons pas bien, et qu'il y a une courbe, nous pensons, nous croyons que la route va se poursuivre, même si nous ne connaissons pas cette route, même si nous ne connaissons pas les gens qui ont fabriqué, construit la route, nous avons une confiance qu'à cause des façons dont les routes sont construites, eh bien la route va se poursuivre. Ou encore, lorsque nous nous présentons pour la première fois de notre vie dans un restaurant où nous ne sommes jamais allés. Nous avons confiance que la nourriture va être bonne, va être correcte à cause des processus mis en place d'inspection, de préparation. Donc, nous nous appuyons sur des faits. La foi chrétienne s'appuie sur des faits, les faits révélés par la parole de Dieu. Parole de vérité, il n'y a rien de plus fiable, de plus solide pour nous. Notre foi, elle s'appuie sur ce que la Bible nous dit à propos de Jésus-Christ. En son amour infini, encore en 2019, le Fils de Dieu appelle tous à se tourner vers lui pour recevoir la miséricorde, la grâce, le salut, la vie éternelle. Au travers de la prédication de sa parole aujourd'hui, ici et un peu partout dans le monde, il dit « Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi ne pas avoir pitié de vos âmes? Venez à moi, j'ôterai vos péchés. Je vous délivrerai de vos fardeaux, du fardeau de vos fautes. Je vous libérerai. Venez, vous trouverez du repos. » Considérez la grandeur de cette miséricorde qu'a le Fils de Dieu pour nous appeler sans cesse à lui. Ne laissez pas le poison de l'incrédulité vous maintenir loin de lui, mais répondez à son appel à vous confier en lui. Premièrement, l'Évangile est la parole de la vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile est reçu par la foi en le Fils de Dieu. Quatrièmement, l'Évangile nous fait connaître l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Parce qu'ils ont cette espérance qui leur est réservée dans les cieux, les chrétiens sont prêts à abandonner la satisfaction, le confort et la gloire d'ici-bas de ce monde, présent pour la gloire future à venir. En contraste avec l'attitude qui prévaut dans le monde et qui dit « acheter maintenant, payer plus tard », le chrétien est prêt à payer maintenant et à recevoir plus tard. Le chrétien a une perspective différente parce que son espérance, elle est basée sur ce que Dieu nous promet. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en vivant de grandes détresses, a pu dire « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Moïse était habité par la même espérance qu'avait l'apôtre Paul et qu'ont les chrétiens. Moïse, en tant que fils de la fille du Pharaon, avait accès à toute la puissance, la richesse, la gloire de l'Égypte. Et pourtant, il a renoncé à tout ça en voulant s'identifier avec le peuple de Dieu, peuple d'Israël, qui ne l'avait pas facile. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? L'Épître aux Hébreux nous dit, « Il regardait plus loin vers la récompense. Il tint ferme comme voyant ce qui est invisible. » Moïse regardait plus loin, regardait vers le futur, regardait vers la promesse de Dieu, vers la récompense, vers ce qui est invisible. Il avait cette espérance de ce qui lui était réservé dans les cieux. Espérance que nous pouvons connaître par la parole de vérité. L'Évangile est générateur d'espérance. Notre monde ne nous donne pas d'espérance. Zéro espérance, mais l'Évangile nous donne beaucoup d'espérance. Êtes-vous habité ce matin par cette espérance que procure l'Évangile? Le Seigneur est-il la principale préoccupation de votre vie? Si oui, heureux êtes-vous. Heureux, véritablement heureux. Êtes-vous? Mais si ce sont seulement les choses vaines du monde qui prennent toute la place et que nous n'accordons pas au Seigneur vraiment d'importance ou d'intérêt, nous sommes en train de gaspiller notre vie et nous ne voulons pas faire ça, nous voulons vivre notre vie en étant des serviteurs et des servantes du Seigneur qui glorifient un Dieu qui est si bon et si gracieux. Une des preuves que le péché a tout déréglé, c'est que la grande vérité de l'Évangile ne nous émeut pas jusqu'au plus tréfonds de notre être et que nous nous conduisons parfois comme si c'était quelque chose d'insignifiant, cet Évangile qui est pourtant si glorieux. Premièrement, l'Évangile est la parole de la vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile est reçu par la foi dans le Fils de Dieu. Quatrièmement, l'Évangile nous fait connaître l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cinquièmement, l'Évangile est enraciné dans la grâce. Verset 6 nous dit « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. » La grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne gratuitement le pardon des péchés. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui est différente de ce que toutes les autres religions peuvent répandre comme message. Les autres religions enseignent toutes que le salut, le pardon des péchés, s'obtient par les bonnes œuvres ou la bonne vie. Mais la parole de Dieu, du début à la fin, ne cesse de nous rappeler que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est le message si précieux qui nous réconforte. Les gens disent « Moi, je ne crois pas en Jésus. » Peu importe la doctrine, l'important, c'est de mener une bonne vie. Ils ne se rendent pas compte que l'important, c'est de mener une bonne vie. C'est une doctrine. C'est une doctrine qu'on appelle la doctrine du salut par les œuvres. Ils ne s'en rendent pas compte. Cette fausse doctrine du salut par les œuvres part du principe que nous ne sommes pas assez mauvais, vraiment, au point d'avoir besoin d'un sauveur. Et que nous ne sommes pas perdus au point de ne pas pouvoir vivre comme il faut. D'autres disent, OK, à partir d'aujourd'hui, là, je vais obéir à tout ce que le Seigneur demande, comme il faut, méticuleusement, scrupuleusement, faire tout ce que Dieu ordonne, et il va devoir me donner la vie éternelle, le salut. C'est encore une de nos tentatives de contrôler Dieu. C'est une expression de la confiance que nous sommes portés depuis la chute à mettre en nous-mêmes, en pensant pouvoir obéir à Dieu parfaitement pour obtenir sa bénédiction et son paradis. Nous cherchons en quelque sorte à être nous-mêmes notre propre sauveur et nous repoussons sa grâce. Et il n'y a rien de pire que de repousser la grâce de Dieu. Premièrement, l'Évangile est la parole de vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile est reçu par la foi dans le Fils de Dieu. Quatrièmement, l'Évangile nous fait connaître l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cinquièmement, l'Évangile est enraciné dans la grâce. Sixièmement, l'Évangile produit du fruit, le principal fruit étant l'amour. Paul écrit au verset 4, « Nous avons entendu parler de l'amour que vous avez pour tous les saints. » J'ouvre ici une toute petite parenthèse. Le mot « saint » dans notre province peut causer une certaine confusion. Si on parle des saints en général, plusieurs pensent que les saints sont des personnes extrêmement rares, des chrétiens éminents qui ont une perfection de vie quasi absolue. Et ils pensent que pour être appelé saint, ça prend une espèce de canonisation papale ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Les saints, ce sont les croyants, les chrétiens, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Nous avons entendu parler de l'amour que vous avez pour tous les saints. Et au verset 8, Paul dit, « Il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. » La preuve par excellence que l'Évangile a pris racine dans une vie, c'est la présence du fruit principal de l'esprit, l'amour. La vraie foi résulte inévitablement en une vie transformée. L'Évangile ne nous laisse pas oisifs, il engendre l'amour. Et l'un des fruits les plus forts, selon le Nouveau Testament, de l'œuvre de l'esprit, c'est cet amour. L'Évangile nous purifie de notre égoïsme et met en nous un amour qui est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons entendu parler de l'amour que vous avez pour tous les saints. Paul pourrait-il dire la même chose de nous? Est-ce que notre amour est pour tous les saints ou avons-nous un amour peut-être plus sélectif? Un amour peut-être restreint à quelques personnes plus qu'à d'autres? Ça ne veut pas dire nécessairement que nous devrions ou que nous pouvons ressentir le même attachement émotionnel à l'égard de toutes les personnes, mais l'amour dans la Bible, c'est plus qu'une émotion. Hein? C'est cette volonté d'agir vers les autres qui sont en besoin, comme Paul dit en Galates 5, 13, « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ pour aimer, pour manifester l'amour aux autres. Et Dieu nous a déversé un océan d'amour sur nous. Il continue de le faire tous les jours. Donc, nous voulons non pas juste laisser tomber de temps en temps une petite gouttelette d'amour, mais nous voulons lui ressembler de plus en plus. Parfois, on entend parler de la grande fraternité humaine universelle. Paul ici ne loue pas Dieu parce que les chrétiens de Colosse aiment le monde entier, mais parce qu'ils aiment les saints, tous les saints. Bien sûr, il faut avoir pour tout le monde un amour, mais comme le disait Augustin, nous sommes d'abord et avant tout citoyens de la cité de Dieu et non pas de l'autre cité. La Bible parle des chrétiens qui ne cessent de porter du fruit. Ils fleurissent comme le palmier, dit le psaume 92. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Ils sont féconds, pleins de sève, toujours verdoyants, même quand c'est une année de sécheresse. C'est ce que nous aimerions, c'est ce que nous voulons être. En étant unis à ce Sauveur merveilleux qu'est Jésus-Christ, nous pouvons avoir et vivre de cet amour. Sinon, nous devenons facilement, si nous nous coupons de cette relation vitale, nous devenons des buissons secs. L'Évangile nous est donné pas seulement pour notre information, mais pour notre transformation. Cet Évangile, dit Paul, fait des progrès, porte des fruits. Quand l'Évangile a saisi un cœur, il porte des fruits, il procure une énergie nouvelle, insoupçonnée, qui nous permet d'aimer, de pardonner toutes les injures qui sont faites contre nous, une énergie puissante qui est là, incompréhensible, mystérieuse, mais véritable. L'Esprit agit au-dedans de nous pour nous transformer. Premièrement, l'Évangile est la parole de vérité. Deuxièmement, l'Évangile concerne Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile est reçu par la foi dans le Fils de Dieu. Quatrièmement, l'Évangile nous fait connaître l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cinquièmement, l'Évangile est enraciné dans la grâce. Sixièmement, l'Évangile produit du fruit, le principal fruit étant l'amour. Et septièmement et finalement, l'Évangile est transmis par des gens. Comment est-ce que les Colossiens avaient entendu parler de l'Évangile? On pense que Paul n'était jamais allé dans cette région, mais regardez les versets 6 et 7. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour nous un fidèle ministre du Christ. Dieu utilise des canaux humains, des gens, des canaux d'amour, si vous voulez, pour faire connaître la bonne nouvelle. Dieu nous donne le privilège extraordinaire d'être des ambassadeurs de son amour, de sa grâce, de son évangile. C'est Épaphras qui a amené l'évangile de la grâce de Dieu aux Colossiens. Ils ont appris l'évangile de lui. L'évangile est transmis par des gens. Écoutez bien Romains 10, 13 et 14. L'Écriture déclare « Tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. » Mais comment feront-ils appel au Seigneur sans en avoir entendu parler? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? C'est par les chrétiens qui ouvrent leur bouche que l'Évangile se répand. Au verset 6, Paul écrit « Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il fait des progrès dans le monde entier. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour le monde entier, le monde de toutes les époques, de tous les temps, de toutes les cultures. Faites-vous votre part dans l'annonce de l'Évangile? L'Évangile est parvenu jusqu'à vous. La plupart d'entre vous, peut-être tous, c'est Dieu seul qui connaît les siens. L'Évangile est parvenu jusqu'à nous. La puissance salvatrice de Dieu nous a visités. Ce salut nous rend plein de joie, nous donne un grand bonheur. Est-ce que tout s'arrête à nous ou est-ce que nous faisons notre part pour le transmettre aux autres? En Actes 19, 10, il est dit « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. À la fin de la période apostolique, on a estimé le nombre total de chrétiens à 500 000 parce que les chrétiens avaient ouvert leur bouche et le Saint-Esprit s'était servi de leur bouche pour faire connaître l'Évangile. Récemment, alors que je mangeais dans un restaurant avec des amis, il y avait devant moi un grand poster en couleur sur lequel était écrit notre fameuse tarte au citron, un zeste de réconfort. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la tarte au citron ne m'a jamais réconforté. Par contre, l'Évangile de Jésus-Christ me réconforte chaque jour de ma vie. Et cet Évangile ne me donne pas un zeste, petite pincée de réconfort, mais un océan de réconfort, ce glorieux Évangile du Christ. Que Dieu est bon de nous donner son Évangile. Faisons-le connaître autour de nous. Gloire à Dieu pour son Évangile. Amen.